C'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Aucun souvenir.
Oh, je me rappelle plus non plus. Hein.
Philippe! C'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Bon, vous m'avez fait un conducteur. 30 secondes.
Oh purée, ça va être à nous. Oh, Elsa, t'as le café à côté de toi?
Les feuilles, vite, range.
Y'en a plus. Oh, on n'a plus de café, là.
Attends, on fait après l'émission.
Mon papier n'est pas imprimé, là.
Les jours.
Oh, ce gaz, c'est pas mal.
Je m'en fous, j'ai pas le temps.
Bip. Bip. Bip.
Allez, on y va.
Je suis pas réveillée.
5 secondes.
Allez, dernière fois. Zou.
Allez, les gars.
Bonjour à toutes et à tous.
On y va.
Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Saint-Taf dans Vivement ce soir qu'on se couche, une émission pleine de filles. Heureusement que Gabrielle est là pour faire monter le taux de testostérone dans cette radio. Au sommaire de cette édition du mardi 17 janvier 2012, une chemise à rayures remplie de graines et de semences contrôlées, étiquetées, labellisées, privatisées et l'épineuse question des lacs collinaires pour lutter contre la sécheresse. Deux sujets préparés par Elsa Decour. Sylvie Boulard et sa parenthèse littéraire reviennent aujourd'hui à l'œuvre de Joseph Conrad et en particulier sur l'un de ses romans Lord Jim. Et Elsa Gourmand n'y est pour rien. L'actu, c'est pas drôle, c'est même plutôt sacrément agaçant, mais avouez quand même qu'elle se débrouille toujours pour rendre ça agréable malgré tout. Un constat que nous aurons tout le loisir de vérifier dans la rubrique Chou et Fadaise. Je mets la pression à Elsa. Je suis là à vous énumérer le sommaire de cette émission sans me soucier de ceux qui ont de vrais problèmes dans la vie. Que feriez-vous si, comme les ongles noirs, Jésus ne vous aimait pas? Vous feriez peut-être moins les malins.
Hier j'ai perdu la raison, déconné sec, pété un plomb, un mec resté sur le carreau, sa femme désormais elle est borne, je me dis que c'est pas trop tôt, tant pis pour eux, fallait que ça sorte. Aujourd'hui ça va mieux merci, mais moi demain je prends le train, me mettre au vert, parce qu'hier j'ai senti que ça serait pas fini, c'est pas vraiment ma faute, c'est la pression, la ville c'est Paris. Jésus ne m'aime pas, Jésus ne t'aime pas, il tape le carton et perd au jeu. Jésus ne m'aime pas, Jésus ne t'aime pas, moi qui voulais être son bras droit. Et puis j'ai trouvé deux trois potes et on a fait du porte-à-porte à l'affût de cotisations pour monter notre révolution. On est sorti notre cuite, il y avait des choses pas catholiques. On a fait une pétition pour dire que ça tombe pas rond contre un peu tout, on sait pas trop, mais on est contre, on porte plainte et la figure est vous. Chemin faisant qu'un caca, avec trois trains de misère, avec mes chiens de galère, on s'est multiplié, on s'est retrouvé des milliers qui nous ont donné leur raison. J'ai institué ma religion. Jésus ne m'aime pas, Jésus ne t'aime pas, il tape le carton et perd au jeu. Jésus ne m'aime pas, Jésus ne t'aime pas, moi qui voulais être son bras droit. Alors suivez-nous mes frères, remplissez ce chapeau, c'est une avance pour la création d'un ordre nouveau. Suivez-nous mes frères, prêtez-nous vos femmes, remplissez ce chapeau, avalez cette pilule. On monte une armée, on ira dans la forêt, protégé par une garde solide et fière, habillé comme à la guerre. On pourra tous se faire péter la tête, le foie, les couilles, les pieds, quand on s'en sera mis plein les fouilles, qu'on se sera bien vidé les couilles. On partira vers la lune avec pour seul carburant de la mort. Jésus ne m'aime pas, Jésus ne t'aime pas, il tape le carton et perd au jeu. Jésus ne m'aime pas, Jésus ne t'aime pas, moi qui voulais être son bras droit. Un mal de tête qui ne cesse, moi fait salaire dans cette clairière avec une boîte d'allumettes, 30 corps carbonisés. Allez-vous me dire ce qui s'est passé?
RGPJ sont sur mon dos, parquet assise, tout le tralala, la schizophrénie à bon dos. Maintenant on va s'occuper de moi et fini les tracas. On m'enfile un beau pyjama. Je passe ma vie en robe de chambre, tous les jours des anges blancs, les poches pleines de médicaments me garantissent la paix de l'âme. Maman ne vient pas aujourd'hui, maman ne vient plus dès à présent. Ton regard est comme du sel sur mes plaies, s'il te plaît ne viens plus me voir. Je brûle, j'ai mal quand tu es là. Jésus ne m'aime pas, Jésus ne t'aime pas. Il tape le carton et perd au jeu. Jésus ne m'aime pas, Jésus ne t'aime pas. Moi qui voulais être son bras droit. Jésus ne m'aime pas, Jésus ne t'aime pas. Il tape le carton et perd au jeu. Jésus ne m'aime pas, Jésus ne t'aime pas.
C'est violent, hein, nous apprendre comme ça que Jésus ne nous aime pas, de bon matin, on commence bien. Le Père Noël aussi n'existe pas, c'est des vérités qui font mal, très mal. Merci les ongles noirs, nouvel album des fantômes dans nos têtes. Et le titre, vous l'aurez compris, c'est « Jésus ne m'aime pas ». De quoi se mettre en jambe pour le summum de cette émission, Chou et Falaise.
Chou.
Falaise.
Bah pourquoi chou?
Bah parce que feuille.
Ah! Bon bah faut que j'assure là. Hein.
C'est
tour,
ça.
Ouais. Merci Audrey. Tour d'horizon des quotidiens de ce mardi 17 janvier 2012. Le Figaro titre sur le désaccord des agences de notation. L'agence Moody's prolonge de 3 mois l'examen de la perspective stable de la note de la France. Et à côté de cet article, une photo de Jean Dujardin tenant en main le Golden Globe du meilleur acteur pour sa prestation dans le film The Artist.
Bravo.
Merci. Pour Libé, il n'y a pas que le triple A dans la vie. Le quotidien décrypte les 80 propositions pour réformer la France qui font l'objet d'un livre dirigé par l'historien Patrick Veil. Patrick Veil qui s'exprimait ce matin sur France Inter.
Voilà. Je ne l'ai pas entendu.
Moi non plus. Si la Croix ne résiste pas aux agences de notation, elle met à l'honneur le cinéaste Riti Pan, qui dans un documentaire qui sort demain et dans un livre, décrit ce que fut l'enfer Khmer Rouge. Pour sa part, l'UMA s'est offert la chanteuse Juliette comme rédactrice en chef. Celle-ci a passé toute la journée d'hier avec la rédaction du journal de Jaurès. La une de l'UMA est consacrée au sommet social qui se tient demain avec une question. Sera-t-il utile à l'emploi ? 73% des Français répondent non. Un sondage CSA qui, selon l'UMA, confirme que l'opinion n'est pas dupe des intentions du président. La droite multiplie les surenchères en matière de régression sociale. Durififi au Parti Socialiste, pas rue de Solferino à Paris, mais chez nous. Et c'est Béatrice Marr qui en prend pour son grade, nous raconte Dominique Mercadier du Midi Libre. Les législatives pointant le bout de leur nez, les esprits s'échauffent. Béatrice Marr a eu le grand tort d'évoquer sa candidature dans la 3e circonscription de l'Aveyron, alors que les accords PS Europe Écologie Les Verts avaient désigné Marie-Thérèse Foulquier, d'Europe Écologie Les Verts. À cette annonce, José Bové n'a pas mâché ses mots. Elle est prête à tout pour essayer d'exister politiquement. Et Pierre Pantanella en a rajouté une couche et a demandé son exclusion du Parti Socialiste.
Carrément.
Rien que ça, ouais. Ouhou. Le maire de Saint-Rome-de-Cernon ajoute que tous ceux qui la soutiendront subiront le même sort.
C'est l'excommunication.
Ah ouais, là. Le seul moyen de battre Alain Marc, c'est l'unité, a dit Pierre Pantanella. Et Béatrice Marr de rétorquer, c'est une guerre d'ego. Chacun veut se montrer, c'est pitoyable. C'est surtout la meilleure façon de laisser la circonscription à Alain Marc. Eh bien justement, c'est Alain Marc qui doit être content. « Marianne, cette semaine, nous a concocté un numéro riche en infos et reportages. Actualité sur le Rwanda oblige, c'est un article consacré au juge Trévidic qui a retenu mon attention. Le juge Trévidic a rendu public le 10 janvier un rapport technique sur le génocide du Rwanda. Un type qui semble bien faire son boulot. Pourtant, le titre de l'article de Marianne s'intitule « Le juge antiterroriste Marc Trévidic, l'ennemi d'État ». Marc Trévidic est vice-président du pôle antiterroriste. Il gère 36 dossiers en tant que chef d'enquête, dont les plus connus sont l'affaire Karachi, l'assassinat des moines de Tibérine, le Rwanda, le massacre de la rue des Rosiers. Dossier qu'il a repris à la suite du juge Bruguière. Il est aussi spécialiste de l'islam radical. Un homme brillant donc, qui pourtant est dans le collimateur de sa hiérarchie, qui exerce sur lui pression et brimade en tout genre, avec Jacques de Grandy, premier président de la cour d'appel de Paris, en maître d'œuvre de cette entreprise de destruction d'un homme. Car pour De Grandy, un bon juge est un juge taiseux et aux ordres. Et il ne cache pas son souhait, ce De Grandy, de voir supprimer justement les juges d'instruction.
Hein, voilà.
Une idée de Sarkozy, ça, la suppression des juges d'instruction. Et le 7 février 2011, Marc Trévidic s'exprimait sur cette idée au micro de France Inter.
h 17 sur France Info. Bonjour Marc Trévidic.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur France Info. Vous êtes juge d'instruction. Votre nom est désormais associé à des affaires comme celle des moines de Tibérine ou encore au dossier Karachi. Vous êtes aussi président de l'Association française des magistrats instructeurs. Aujourd'hui, les juges, mais pas seulement, sont vent debout contre les propos de Nicolas Sarkozy. C'était jeudi et voilà ce qui a mis le feu aux poudres.
Quand on laisse sortir de prison un individu, comme le présumé coupable, sans s'assurer qu'il sera suivi par un conseiller d'insertion, c'est une faute. Ceux qui ont couvert ou laissé faire cette faute seront sanctionnés. Et nous prendrons toutes les mesures pour que les responsabilités soient assumées et que des décisions, bien sûr, soient prises.
Il vous en veut, Nicolas Sarkozy ?
De longue date. En la matière, c'est un multirécidiviste, j'allais dire, parce que les attaques contre la justice sont monnaie courante depuis des années, quand il était ministre de l'Intérieur, et maintenant plus grave, alors qu'il est président de la République, garant de notre indépendance. Je pense qu'il est largement temps de lui appliquer la peine planchée, puisqu'il faut être très dur envers les multirécidivistes. Ce que je pense de ce que je viens d'entendre, et qui m'a révolté tout le week-end, c'est que ce sont les responsables qui demandent des sanctions. C'est le monde à l'envers. Qui est responsable de l'état dans lequel nous sommes, dans lequel est l'état de la justice aujourd'hui? Qui est responsable du fait qu'on ne peut pas faire bien notre travail? Si c'est nous, très bien, qu'on nous explique comment il faut faire avec des dossiers qu'on ne peut pas traiter parce qu'on n'a pas le temps de les traiter.
C'était sur France Info, donc pas sur France Inter, le 7 février 2011. Alors avec des propos comme ça, il arrange pas son cas, Marc Trévidic. Hein. D'autant plus que depuis 2008, il a ouvert la piste politique dans le dossier de l'attentat de Karachi de 2002. Celle des commissions et rétrocommissions qui auraient servi à financer, en 95, la campagne présidentielle d'Édouard Balladur, alors Premier ministre, et qui avait, pour ministre du budget, un certain Nicolas Sarkozy. Parallèlement, il a relancé l'enquête sur l'enlèvement et l'assassinat des moines de Tibérine. Une affaire où là aussi apparaissent les noms des plus hauts responsables de l'ex-RPR devenu UMP, de l'actuel gouvernement et celui du chef de l'État. Donc depuis, le pouvoir a déclaré la guerre au juge Trévidic, allant jusqu'à priver la justice d'un des plus fins connaisseurs de l'islam radical pour les affaires du Niger et de l'attentat de Marrakech, dont Marc Trévidic n'a pas été saisi. Marc Trévidic, qui nous dit Marianne, ne supporte plus ou de moins en moins les vexations dont il est l'objet de la part de sa hiérarchie. Et son avocat et un de ses collègues sont clairs, il déplaît en haut lieu parce qu'il fait avancer les dossiers et menace la raison d'État. La douce sonorité du téléphone. Je ne sais pas si vous êtes accro au téléphone, mais il y en a qui ne peuvent pas s'en passer. Michel Alliomarie, dite MAM pour les intimes, par exemple. Marianne nous a dégoté une petite perle. Alors vous vous souvenez peut-être de l'affaire de Tarnac. Des jeunes gens, dont Julien Coupa, qui vivait à Tarnac en Corrèze et y tenait une épicerie alternative, avaient été arrêtés sans preuve pour le sabotage d'une ligne TGV dans la nuit du 7 au 8 novembre 2008. La dizaine de suspects avaient passé plusieurs mois en prison, puis ils avaient été relâchés. Eh bien, cette sombre affaire ressurgit à la faveur d'une instruction judiciaire sur le placement sur écoute de l'épicerie de Tarnac. Julien Coupa et ses camarades avaient été identifiés comme saboteurs potentiels à partir d'écoutes effectuées en mars 2008 au magasin de Tarnac, soit 8 mois avant le sabotage de la ligne TGV. Et ces écoutes avaient été installées sans que la justice en soit informée. Autrement dit, le groupe faisait l'objet d'écoutes illégales placées à l'insu de la justice, enregistrant des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel. Marianne s'interroge, qui donc avait ordonné de surveiller le groupe avant les supposés actes terroristes que l'on s'efforce vainement de lui imputer? Aurait-on surveillé un groupe en raison de l'étrangeté des écrits philosophiques de Julien Coupa, qui avait fondé une revue philosophique pour publier ses essais de métaphysique critique? On attend avec impatience les résultats de l'instruction judiciaire. Faut-il crier au loup ? Pas une semaine sans qu'il soit question de Marine Le Pen. Politis n'échappe pas à cette tendance, et bah du coup moi non plus. Marine Le Pen, un an de mystification, titre l'hebdomadaire. Le FN bénéficie d'une embellie dans les sondages, tout comme dans les résultats des élections cantonales de mars 2011. L'attrait de la nouveauté, une image plus propre sur soi du parti, serait à l'origine de ce regain de vitalité. Mais pas seulement pointe Politis. Par complaisance ou absence de mémoire, ses adversaires politiques, mais aussi la presse, n'ont guère décrypté cette mutation de pure forme. Ce faisant, et c'est la troisième cause du retour du Front National, ils ont accrédité une mystification, l'existence d'un nouveau Front National. Politis décortique le programme de Marine Le Pen et rappelle que toute la politique sociale du parti s'articule autour de la préférence nationale. La préférence nationale, un principe xénophobe, contraire à la Constitution et aux dispositions européennes. Pas beaucoup de différence donc avec les discours et les idées de papa. Il y a un domaine où elle se différencie de son géniteur atrabilaire, hein, ceci dit, c'est celui de relations avec la communauté juive. Tout le monde sait ce qui s'est passé dans les camps et dans quelles conditions. Ce qui s'y est passé est le summum de la barbarie, a-t-elle dit dans un entretien au Point. Une phrase qui a suffi à fissurer le bloc que les associations juives formaient autour du FN. Autre mystification, Marine Le Pen se fait passer pour la championne de la défense des classes populaires. En réalité, les thèses du Front National sont proches de celles du MEDEF, dit Politis. Ainsi, elle serait plébiscitée par les ouvriers. Une idée qui fait son chemin et que vient créditer la fondation Terra Nova dans une note publiée au printemps, estimant que le Front National a basculé sur un programme de protection économique et sociale équivalent à celui du Front de Gauche. Certes, la fille de son père pique allègrement dans le vocabulaire du parti de gauche et à première vue, le discours ainsi servi semble opposé à l'ultralibéralisme. Pourtant, derrière cette posture, le Front National dissimule des idées libérales. Exemple, comme le MEDEF et l'UMP, le FN envisage de réduire le coût du travail et donc de supprimer les cotisations sociales avec le risque de conséquences graves sur le budget de la sécurité sociale. Il n'envisage pas d'augmenter le SMIC et Marine Le Pen est opposée à tout plafonnement des hauts salaires. Aucune proposition sur la précarité, mais rétablissement de l'apprentissage dès 14 ans. Et puis le FN avance aussi l'idée d'un capitalisme populaire avec la reconnaissance au personnel d'une part de la propriété dans l'entreprise, mais sans droit de vote. Quand même, c'est pas pareil. Et puis la haine des syndicats demeure une constante dans ce parti. Marine Le Pen s'exprimait ainsi sur le mouvement social contre la réforme des retraites. Elle a dit « cela ne conduit à rien d'autre qu'au dérapage et au chaos ». Finalement, c'est Guy Bedos, l'invité du journal Politis, qui remet les pendules à l'heure. Tel père, tel pire. Marine Le Pen est plus séduisante que son père, ce qui est relativement aisé, mais beaucoup plus dangereuse. Elle n'a pas le discours antisémite de son père, elle n'a pas fait la guerre d'Algérie, mais elle travaille les classes populaires contre les Noirs et les Arabes. On change de registre avec L'Âge de fer qui revient en page intérieure sur le film Tous au Larzac. Les indignés de l'époque, c'était vous, titre L'Âge de fer. Le film a fait ressurgir l'histoire d'une lutte où la solidarité l'a emporté sur les divergences. Des paysans du cru, des néo-ruraux et des militants maoïstes, des objecteurs de conscience ont réussi à bâtir un projet commun. Pierre Bruguière, un des acteurs de cette lutte, insiste sur les liens qui se sont créés entre ces personnes, on ne peut plus différentes, un des facteurs de la réussite du mouvement, sans que jamais les 103 familles menacées d'expulsion ne perdent la main sur les décisions prises. Les protagonistes du documentaire disent « Notre témoignage a un impact dans ce monde plein de morosité ». Et c'est vrai que ce film est une magnifique leçon de militantisme. À voir, plus à Saint-Taf malheureusement.
Peut-être à Camarès, peut-être...
Camarès, c'est fini, c'est aussi, fini c'était aussi. Le week-end dernier.
Ah, je l'ai loupé.
C'est triste. Bon, peut-être écoute, à Mio, je sais pas.
Une petite américaine pour se remettre de tout ça, Erwan. You did is fucking making fun of me, and you deserve nothing at all. Go fuck yourself, you bastard!
Rose, Grèce, Candy, sportif, tank et Barbie. Arrogante, puritaine, croyante, rigide, et que béni. Quand tu cries, oh my god, je pense à Toy Story.
Talking to me?
Pourquoi tu me mates de haut avec tant de mépris? Tu n'as jamais voulu que l'on passe à Miami. Mon petit Paris envie ton bikini à Miami. Je te déteste, tu me hais.
Mademoiselle, l'américaine de Erwan, notre deuxième CD de la semaine, avant de passer à la chemise à rayures française, je sais pas, centrafricaine en tout cas.
La chemise à rayures.
Info, invité, reportage
sur Radio Centrafrique.
Aujourd'hui dans la chemise à rayures, Elsa, tu nous proposes deux sujets sur la gestion de l'eau vue par la FDSEA. Mais pour commencer, Jacques Commer qui revient sur la taxation des semences. Bonjour Elsa.
Salut Audrey, salut Elsa, salut tout le monde. Alors rappelez-vous, au moment où le Conseil d'État a annulé la suspension de culture OGM, le Monsanto 810 dont on parlera demain dans la chemise à rayures, en France, les députés ont adopté une proposition de loi très controversée touchant en plein cœur de l'activité agricole. Depuis, cette nouvelle loi sur l'obtention végétale a été adoptée à l'encontre des agriculteurs puisqu'elle institue une taxation pour être autorisée à semer ses propres graines. Jacques Comer est responsable de l'organisation des producteurs de grains, qui est la section grande culture du syndicat généraliste de la coordination rurale. Alors rappelons que la coordination rurale, c'est le second syndicat en France derrière la FNSEA, et second à quelques voix près avec la Confédération paysanne. Donc revenons aux semences avec Jacques Comer qui nous explique de quoi il s'agit.
Le gouvernement a institué une nouvelle taxe qu'on appelle CVO, qu'on appelle cotisation volontaire obligatoire. Bon, déjà, volontaire obligatoire, il y a une ambiguïté dans la dénomination de cette cotisation. Bon, cette cotisation, pourquoi une CVO ? Ben, une CVO, c'est parce qu'elle va vers la filière, ce qu'on appelle la filière semence, l'interprofession semence. Alors, l'interprofession semence, il faut le savoir, en France, est constituée donc des semenciers, des firmes semencières, de l'industrie semencière, de toutes les sociétés semencières, de l'ensemble des distributeurs, c'est-à-dire très souvent des coopératives, mais aussi du négoce agricole. Et les agriculteurs sont représentés dans cette interprofession par le syndicat FNSEA. Et c'est vrai que bon, il y a entre la FNSEA et l'industrie semencière une collusion assez importante, puisque donc le président de la FNSEA, qui est aussi président de Sophie Protéol, est partenaire de l'industrie semencière, partenaire à travers des sociétés de semences comme Limagrain et autres, qui sont très présentes sur notre marché français.
Actuellement, c'est Xavier Belin, un exploitant agricole céréalier, bien sûr, hein, qui est président de la FNSEA. Et comme nous l'a expliqué Jacques Comer, M. Belin est aussi président du groupe Sophie Protéol. Alors Sophie Protéol, qu'est-ce que c'est ? C'est un groupe actionnaire de semenciers français comme Limagrain ou Uralis Semences. Leur rôle, c'est d'accompagner les entreprises de l'agro-industrie française à se développer davantage. Et les gens, de quoi ils s'occupent en clair ? De l'alimentation des hommes et des animaux. Donc Xavier Belin ne s'arrête pas là, il est aussi au niveau international président de l'Alliance européenne des oléas protéagineux et membre du Conseil de prospective européenne et internationale pour l'agriculture et l'alimentation. Donc c'est pas seulement en Europe, c'est aussi international. Maintenant que vous savez qui chapeaute les semences en France et le pouvoir qu'ils ont non seulement au niveau local mais aussi international, revenons sur cette histoire de taxation avec Jacques Comer.
Donc cette cotisation volontaire obligatoire, eh bien, elle vient taxer les agriculteurs pour pouvoir utiliser leurs propres graines comme semences. Bon, il faut savoir que les agriculteurs utilisent depuis la nuit des temps leurs propres graines comme semences. On achète les semences, on les cultive pour faire par exemple du blé qui va chez le meunier ou chez le fabricant d'aliments du bétail, et on ressème une partie de ce grain. C'est ce qu'on appelle des semences fermières, des semences produites à la ferme. Alors il est bien évident que toute l'industrie semencière voit cette autoproduction de semences à la ferme d'un très mauvais œil, parce que ben, pour eux ce sont des capitaux qui ne sont pas pris sur les agriculteurs. Donc jusqu'à maintenant on est passé un peu à travers, donc on a eu des CVO qui n'étaient obligatoires que sur le blé tendre, et aujourd'hui cette nouvelle loi pour laquelle nous ne sommes pas d'accord, c'est en gros la généralisation de cette CVO à des plantes, à des espèces sur lesquelles elle n'était pas appliquée.
Donc il y a 21 espèces au total qui sont concernées par cette cotisation volontaire obligatoire. Est-ce que finalement tout ça, ça ne se rapprocherait pas un petit peu du brevetage du vivant ?
Oui, tout à fait, hein, c'est le brevetage du vivant. Bon, il faut savoir que les semenciers ont depuis toujours essayé de faire du profit. Hein. Bon, c'est vrai que quand on pense semencier, on pense toujours à des structures comme Monsanto ou Pioneer ou autres. Bon, il n'y a pas que des importantes firmes multinationales en France, mais ce sont les plus importants. Donc, eux ont toujours essayé, disons, de contraindre l'agriculteur à utiliser leurs semences. Alors, ils y sont arrivés sur certaines espèces, comme le maïs, par exemple, en créant l'hybridation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les maïs que vous utilisez pratiquement en France et aux États-Unis, un peu partout, sont des maïs hybrides. Et cet hybride-là, si vous le ressemez, ben, ça ne fonctionne pas. Vous avez une perte importante de production. Donc, en maïs, par exemple, on utilise systématiquement des semences certifiées, qu'on appelle, donc qui viennent de chez le semencier. Et en fait, les semenciers ont toujours lutté donc, dans ce sens-là. Ils ont essayé aussi de faire des blés hybrides, mais chez le blé, ça ne marche pas, parce que le blé est une plante autogame, donc sur lequel vous avez sur la même plante le parent mâle et femelle, et donc ça ne marche pas, cette hybridation. Et ils ne sont jamais arrivés sur le blé, jusqu'à aujourd'hui, à obliger les agriculteurs de façon technique à réutiliser ces semences. Alors, il y a des velléités d'OGM derrière ça, mais aujourd'hui, les OGM ne sont pas autorisés en France, notamment, et donc, ils n'y arrivent pas. Alors, voilà, donc, et le problème pour nous, si vous voulez, c'est que quand on regarde la position maïs, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, avec ce monopole qu'ont les semenciers, eh bien, les semences de maïs sur notre territoire valent deux fois plus cher que ce qu'elles valent aux États-Unis, par exemple. Donc, on est pris dans un effet où il n'y a pas de concurrence. L'agriculteur est obligé d'acheter ses semences et donc il les paye cher. Quoi. Les semenciers lui font payer très cher. Voilà.
Liberté et droit des paysans contraints donc à suivre le grand courant mondial où les plus puissants imposent leurs lois. De plus près, quelle est donc la réaction des agriculteurs face à cette nouvelle taxation obligatoire ?
Ben, les agriculteurs, bon, c'est pas, si vous voulez, la cotisation en tant que telle qui les ennuie énormément, mais ce qui est ennuyeux dans cette affaire avec les semenciers, c'est que, on sent une fois de plus qu'on nous impose la vision des semenciers et que, en plus, bon, question pécuniaire, c'est vrai qu'aller taxer des agriculteurs qui, dans certains secteurs, notamment élevage, ont du mal à boucler leur budget, aller leur imposer une taxation supplémentaire pour des sociétés qui roulent carrosse, disons, eh bien, on le prend très mal. Les agriculteurs le prennent très mal. Et puis, c'est surtout cette vague de contraintes. Bon, dans toutes nos professions, on subit mal les contraintes. Et là, c'est vraiment une contrainte qui a été imposée par l'industrie semencière, qui est mal vécue par les agriculteurs sur le terrain, c'est clair.
Donc, quelles solutions mettez-vous en place pour résister localement ?
Ben, localement, on va être démunis. On ne sait pas encore comment vont arriver les décrets d'application, parce que aussi bien sur un blé qui est vendu à un meunier ou qui est vendu à un semoulier, on peut taxer la transaction. Mais par contre, quand il s'agit de cultures de trèfle, de cultures qui vont à des destinations fourragères et qui sont consommées par l'élevage, autoconsommées par l'élevage, on ne sait pas comment ça va s'appliquer encore. Donc, je crois que l'interprofession, le CNIS, donc le groupement d'interprofession des semences doit apporter son modèle pour taxer les agriculteurs. On va voir ce qui va en résulter.
Qu'en pense donc personnellement la coordination rurale ?
Bon, nous, ce que l'on regrette là-dedans, c'est que, en fait, la prédominance d'un syndicat qui est lui-même, disons, très proche de l'industrie semencière, nuit finalement à la profession des agriculteurs. Et c'est justement pour cette raison que nous revendiquons donc de pouvoir soutenir la production des semences à la ferme. Bon, nous verrons comment ça se passera dans le futur, mais c'est clair qu'on aimerait bien revenir sur cette réglementation.
Tout cela risque justement d'être fort compromis car le CNIS, le groupement national interprofessionnel des semences, se félicite de cette nouvelle loi qui, je cite, « sécurise le financement de la recherche et donne aux sélectionneurs les moyens de développer durablement des programmes d'amélioration des plantes ». Et comme vous le savez, cette année a été un grand record de sécheresse, plus désastreux encore qu'en 2003. Depuis 10 ans, on constate des années de moins en moins pluvieuses, notamment dans le sud du département. Bientôt, le fonds des calamités agricoles ne suffira plus à sauver les agriculteurs. C'est pourquoi de nouveaux projets voient le jour. Malgré des avis plus que divergents, pour la FFDCEA, les choses sont claires. La solution se trouve dans la construction de lacs collinéaires. Dominique Fayel, président de la FDCEA, la Fédération des syndicats d'exploitants agricoles, nous en dit plus sur ces retenues d'eau.
La question du stockage devient primordiale. Quand on dit politique de stockage, c'est pas forcément que pour l'agriculture, c'est aussi pour les autres usages, c'est pour le débit des rivières, c'est aussi pour l'eau potable. Donc nous, on inscrit une politique de l'eau pour l'agriculture dans le cadre d'une politique de l'eau plus large. Pour la partie agricole, il faut tenir compte de la réalité telle qu'elle est, de la géographie telle qu'elle est, c'est-à-dire que c'est essentiellement par le biais de lacs collinaires, c'est-à-dire des retenues qui sont faites entre deux collines, et qui se rempliront l'hiver pour être utilisés ensuite pendant le printemps ou l'été. Tous les agriculteurs n'ont pas forcément un site favorable pour faire une retenue collinaire. Mais partout où ce sera possible, il faudra essayer d'y parvenir.
En clair, la FDSEA pense que dans un cadre collectif, c'est-à-dire faire une retenue d'eau pour 10 ou 15 agriculteurs, il sera plus facile de trouver un site favorable. De même, si une retenue n'est utilisée que par un seul agriculteur, il pourrait être amené une gestion collective de plusieurs lacs afin d'être plus efficace et de renforcer les réserves les unes par rapport aux autres. Une démarche collective qui n'exclurait pas, bien sûr, quelques réalisations individuelles. Vous l'aurez compris, le principe est simple. Puisqu'il pleut durant l'hiver, il suffit de récupérer cette eau afin de pouvoir la réutiliser au printemps et en été. Selon Dominique Fayel, il nous vante Dominique Fayet nous vante les mérites de ces lacs, qui à ses yeux ont bien plus d'un avantage.
Autrefois, quand il faisait une période de sécheresse prolongée, ben, le ruisseau ne coulait plus. Maintenant qu'il y a un lac, eh ben, un débit minimum peut être réservé pour que le ruisseau continue de couler. À côté de ça, il peut y avoir d'autres usages pour la pêche ou pour les loisirs. Je pense que sur Luc notamment, qui est en zone périurbaine, il y a eu des aménagements pour les promenades et pour les loisirs qui ont été faits autour du lac. En fait, le stockage de l'eau et les retenues collinaires ne sont pas une idée si nouvelle que ça. Il y avait eu une politique assez affirmée dans les années 70-80. Puis, pour des raisons de contraintes environnementales, pour des raisons qu'on qualifie nous aussi d'assez idéologiques, l'irrigation a été mal vue. L'irrigation, le principe de l'irrigation a été rejeté parce qu'assimilé à l'agriculture intensive. Or, l'intérêt de l'irrigation, c'est pas tant de produire plus que de sécuriser les surfaces irriguées.
La FDSEA insiste donc, le principe de ces retenues d'eau n'est pas d'accroître la production, mais bien de sécuriser la production fourragère, et bien sûr de faire un petit peu de tourisme sur les berges. Petite question que l'on se pose quand même, qui donc financera la construction de ces nouveaux lacs?
Les agriculteurs déjà en premier, ensuite il y a des partenariats, notamment avec l'Agence de l'eau, et aussi des fonds européens. Voilà. Et bien entendu, ces projets sont menés et sont conduits en tenant compte de règles extrêmement strictes qui découlent de toutes les lois, les lois sur l'eau, les différentes réglementations sur l'eau qui sont extrêmement complexes, assez lourdes. C'est pour ça que de tels projets, il est difficile de les mener tout seul. Il faut les mener de façon collective. Donc, pendant l'année 2012, là, je pense que quelques projets vont démarrer et ça fera la première fois, ce sera la première fois depuis une quinzaine d'années que de nouveau des projets de retenue collinaire vont pouvoir enfin se réaliser. Donc les procédures administratives, tout l'accompagnement technique, etc. va pouvoir se rôder sur les premiers projets qui vont sortir cette année. Et on espère ensuite pouvoir amorcer un rythme plus régulier dans les années suivantes. Et c'est un projet que l'agriculture aveyronnaise peut voir réaliser sur une dizaine d'années. Dans l'absolu, dans l'idéal, allez, si on en faisait 500, 600, 700, sur tout le département, ce serait très bien, quoi. Voilà. Ce sera pas la solution à tout, mais parmi la panoplie de solutions qu'il faudra mettre en œuvre, celle-ci est incontournable.
Dominique Fayel, président de la Fédération des syndicats d'exploitants agricoles, se voit donc plutôt serein quant à la suite des événements. Affaire à suivre donc, puisque demain aura lieu la visite d'une exploitation agricole à Luc, dans le Nord Aveyron. Cette journée est organisée par la Chambre d'agriculture, la FDSEA et les jeunes agriculteurs. L'idée est de faire un état des lieux de la sécheresse et de présenter tous les avantages qu'auraient ces retenues d'eau à Madame la Préfète, qui se déplacera en personne pour l'occasion. Sachez qu'en 2012, plusieurs de ces lacs collinaires verront déjà le jour. Pourtant, tout le monde ne partage pas cet enthousiasme, notamment la Confédération paysanne ainsi que de nombreux autres organismes qui pensent que ces retenues d'eau accentueraient même le phénomène de sécheresse. Suspense donc. Dans une prochaine chemise à rayures, nous ne manquerons pas de recevoir les opposants à ce type de projet.
Ces satanées contraintes environnementales qui empêchent l'irrigation de se développer. C'est bien connu, l'irrigation, c'est pas du tout de l'agriculture intensive, non mais... Enfin bref, pas de commentaires Audrey. On va prendre un peu de hauteur grâce à Sylvie Boulard et sa chronique parenthèse littéraire aujourd'hui. Deuxième épisode consacré à Joseph Conrad. Je garde mon calme.
Alors pour terminer sur Joseph Conrad, je vous ai donné donc plusieurs titres de romans, hein, donc Typhon, Au cœur des ténèbres, mais moi il y a un roman que j'affectionne tout particulièrement et qui s'appelle Lord Jim. Alors Lord Jim, c'est un roman qui a été mis au cinéma, je me souviens pas du nom de l'auteur, je crois que c'est David Lean, mais j'en suis pas sûr, mais qui était joué par Peter O'Toole, celui qui avait fait aussi Laurence d'Arabie. Et Lord Jim, ça raconte, là pour le coup, on est vraiment... voilà, au cœur de ce qui fait le système, enfin les préoccupations de Joseph Conrad. C'est-à-dire que ce Lord Jim, c'était un personnage qu'on découvre dans un comptoir maritime de l'Asie. Et puis c'est quelqu'un qui fait commis, c'est-à-dire qu'il travaille sur le port. Bon, c'est pas un coulis, c'est pas un porteur, mais c'est pas quelqu'un qui a de très grandes responsabilités. Et par contre, là où il s'est arrêté, où on le trouve au moment où commence le roman, on l'appelle Lord Jim parce que c'est quelqu'un qui, au niveau du port, gère un peu l'arrivée des bateaux, les déchargements, etc. Et puis on apprend au cours du roman que finalement, ce Lord Jim, il a été dans différents endroits où il s'est toujours, à un moment, il a toujours à un moment fui, il est toujours parti un peu sans donner aucune raison, et parce que comme s'il était poursuivi par une espèce de malédiction qui s'attache à lui. Et puis on découvre finalement que ce Lord Jim, il y a eu un moment où il était sur un bateau, il était capitaine d'un bateau, et où il a dû faire un choix parce que le bateau était pris dans une tempête, et il a fait le mauvais choix, à savoir qu'il a fui son bateau, il a laissé aller le bateau à sa perte et les hommes qui étaient dessus. Donc c'est cette lâcheté première, quoi, qui le marque complètement et qui fait que à chaque fois il est obligé de s'enfuir parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas prendre des responsabilités et qui est poursuivi par cette malédiction. Alors bien sûr, le roman raconte son histoire et raconte un moment où il est de nouveau confronté à cette grande question, à savoir choisir finalement quel homme il veut être. Et on verra, bon ça je ne vous dirai pas la fin, mais bon en même temps ça n'a pas une importance considérable. C'est face à ce choix qu'il se trouve et c'est là qu'on découvre un peu la complexité de l'âme humaine, c'est-à-dire qu'il est à la fois pris dans ce côté, sa lâcheté et puis l'envie de se racheter et l'envie de montrer qu'il est capable d'autre chose. Et ça, c'est vraiment au cœur de l'œuvre de Joseph Conrad et c'est ce qui en fait son intérêt, on pourrait dire. Donc je vous conseille vraiment de lire, si vous en lisez qu'un, ce sera celui-là, c'est vraiment Lord Jim. Alors tous les bouquins de Conrad, ils sont en livre de poche, hein, on les trouve chez Folio et aussi chez Flammarion, enfin il n'y a aucun problème pour s'en procurer. Et vraiment, je pense que si on a envie d'approcher un petit peu ce que pouvait être cette littérature anglaise de la deuxième moitié du 19e siècle, je pense que c'est une bonne entrée en matière. Et Joseph Conrad, c'est vraiment un très, très grand écrivain parce que c'est quelqu'un qui vous fait toucher du doigt les grandes questions qu'on se pose tous. Et même si ça nous fait voyager, évidemment, puisque c'est très loin de notre vie quotidienne, on se rend compte que les questions qui se posent des personnages, c'est des questions auxquelles on est confronté encore, nous, aujourd'hui, en tant qu'être humain.
Et on va planer avec le troisième et dernier CD de la semaine, La Case de l'Electro, et le titre du jour, c'est Chillum. Thank you. femme de l'accueil, troisième CD de la semaine, aux côtés de Les Ongles Noirs. On a écouté le titre « Jésus ne m'aime pas ». Et du côté de Erwan, son nouvel album pour Rouge, on a écouté le titre « L'Américaine ». J'ai oublié de vous dire que nous avons des places à vous faire gagner pour la pièce de théâtre de la Doline, jeudi soir à la salle des fêtes de Saint-Aff, le voyageur sans bagage. Il suffit de nous appeler ou passer à la radio, on vous donnera les places en question. C'est l'heure des remerciements. Merci Elsa Decour pour sa chemise à rayures. Merci à Elsa Gaumont pour sa toujours brillantissime revue de presse Chou et Fadaise. Merci à Sylvie Boulard et sa parenthèse littéraire consacrée à Joseph Conrad et plus particulièrement à l'un de ses livres Lord Jim. Merci à Chloé, à la technique, à Gabriel qui met des visages sur des voix et paraît-il, ça fait drôle. Alors, je ne sais pas trop comment il faut le prendre. On va le prendre bien, mais on va creuser la question. Hein. Merci à Manu et Philippe, les hommes de la situation. On se retrouve demain à 10h10 ou à 17h10 en rediffusion. Bonne journée, bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.